LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Un jour, j'ai demandé à mon compagnon de 20 ans s'il m'aimait. Et sa réponse n'a pas franchement été celle que j'attendais. Il m'a répondu « Accrochez-vous bien ».
Pas tous les jours.
J'avoue que sa réponse m'a un peu surprise et attristée surtout, faut bien l'avouer. Pas tous les jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire « pas tous les jours » ? Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'aimer par intermittence ? Qu'on est tous les deux des intermittents du spectacle et de l'amour ? Et après 20 années passées ensemble, est-ce que c'est encore de l'amour ?
Vivre cette vie !
Et moi, tu crois que je peux vivre cette vie ? Que j'éprouve des putains de valeurs !
J'ai repensé à cette scène du film Le Prestige de Christopher Nolan, où l'épouse d'un magicien torturé joué par le beau Christian Bale lui demande désespérée s'il l'aime. Et lui répond « Not today ».
Je veux que tu deviennes honnête avec moi. Est-ce que tu m'aimes ?
Pas aujourd'hui. Non.
Bon, et excusez-moi de spoiler le film, mais après cette déclaration tiédasse, la nana finit par se pendre, et à la fin, on se rend compte qu'il avait un frère jumeau qui vivait un jour sur deux avec elle, et que c'est pour ça qu'il aimait pas tous les jours. Bon, ce serait vraiment compliqué de vous résumer le film, mais ce que je sais, c'est que moi, mon compagnon, il n'a pas de frère jumeau, ça j'en suis sûre. S'il avait voulu me coincer, au lieu de son « pas tous les jours », il m'aurait répondu
« Je sais pas, tout dépend ce que t'entends par amour. C'est quoi l'amour pour toi ?»
Et là, il m'aurait bien mouché, parce qu'au fond, je ne sais pas vraiment ce que c'est l'amour. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancred Ramonet, réalisée par Julie Béressi. Épisode 5, Entre nous, c'était chimique.
Moi, ma théorie, et je ne sais pas si elle est bonne, c'est que l'amour, c'est lié au capitalisme.
Tancred Ramonet.
Mais c'est vraiment un truc idéologique que je dis. Pour moi, l'amour, ça apparaît après l'amour courtois et c'est le début du capitalisme. Et je trouve qu'il y a une question qui se pose de ça date de quand l'amour ? Est-ce qu'on peut faire une sorte d'histoire de l'amour ou une préhistoire de l'amour ?
Tu crois pas qu'on pouvait s'aimer, je sais pas, au temps des cavernes ?
Eh ben, je suis pas sûr.
Est-ce que ce qui est le propre de Sapiens Sapiens, finalement, c'est pas quand même de s'aimer ? Si ça se trouve, l'amour, ça... Ou le couple, tu vois, on dit souvent dans la nature, les animaux, ils sont pas fidèles, etc. Mais... Tu crois pas que, si ça se trouve, on est programmé pour être monogame, je sais pas, comme les orques ou comme les pingouins. Tu crois pas que le couple, il existait finalement à l'état quasi naturel avant la sédentarisation ?
Ben, on voit ça dans la guerre du feu. Dans la guerre du feu, c'est l'invention du couple, c'est l'invention de l'amour en fait. C'est l'homme devient homme quand il fait l'amour. D'ailleurs, il arrête de faire l'amour à quatre pattes et il fait l'amour en se mettant en bonne vieille position du missionnaire qui est inventé à ce moment-là, quand il découvre le rire et quand il découvre le sentiment amoureux et l'exclusivité.
Tu sais, ce qui serait intéressant, ce serait d'aller voir un proto-historien et lui demander s'il n'y a pas des vestiges de l'amour. On sait que tu vois qu'il y a des traces de sexualité, genre dans les peintures rupestres ou dans les Vénus et tout ça. Mais des traces d'amour, je ne sais pas en fait. À partir de quand ça remonte ? Est-ce qu'on a des tombes avec des, je ne sais pas, des couples enlacés ou... Ce serait intéressant d'aller chercher du côté des archéos, des paléos. Il faudrait aller creuser ça.
Alors, est-ce que l'amour, ça commence avec Sapiens Sapiens ou est-ce qu'on trouve d'autres traces ou peut-être d'autres formes d'amour avant ou...
Si on définit l'amour comme ce surplus psychique et culturel en sus de la reproduction...
Jean-Paul Demoule, professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université de Paris 1.
Il faut penser que cette forme d'attachement particulier, mais qu'on voit aussi chez les primates au moins, et probablement chez d'autres mammifères, accompagne la progression de la complexité psychique. Donc je pense que c'est un processus très progressif qui vient de loin et qui n'a fait que s'amplifier, sachant que Homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, on est attestés depuis à peu près 300 000 ans, mais avec une complexité croissante, puisque c'est seulement depuis 40 000 ans qu'on s'est mis à faire des peintures sur les grottes, à faire des petites figurines, etc. Mais que depuis 40 000 ans, il n'y a probablement pas de grande différence. Donc les formes d'amour qu'on peut connaître de nos jours ne devaient pas être très différentes il y a 40 000 ans.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé comme tombe ou comme vestige, justement, de ce début d'amour, en tout cas, de ce début, peut-être, d'amour entre mâle et femelle, on va dire, homme, futur homme et future femme ?
Pour le paléolithique, je vois pas vraiment, alors que c'est après, au cours du néolithique, on peut avoir des enterrements simultanés homme-femme. Je pense à ce qu'on a trouvé par exemple en France, à Thonon-les-Bains, un homme et une femme dans la même tombe. On est vers moins 3500 à peu près avant notre ère. Cela dit, c'est pas toujours une preuve de grand amour, parce que on a une autre tombe assez connue dans le nord de l'Italie, qu'on appelle souvent la tombe de la veuve. On est toujours aux alentours de moins 3500, où on a un homme enterré au milieu d'une grande fosse ronde, enterré avec des objets, etc. Et à côté, il y a le squelette replié d'une femme qui a le crâne enfoncé. Donc là, il s'agit d'un sacrifice. Pour la période néolithique, je pense à une petite maquette de maison, c'est-à-dire que c'est un objet en terre cuite qui fait à peu près une vingtaine de centimètres de côté, qui représente la base d'une habitation avec la porte, un four, des objets. Et il y a six figurines humaines. Il y en a deux grandes, deux moyennes et deux petites, et à chaque fois masculines, féminines. Dans le nord de la Grèce, donc à Zarco, en Thessalie, on est vers moins 5000. Et donc là, on peut penser assez légitimement à trois couples, grands-parents, parents et enfants, ce qui irait effectivement dans le sens, dans ce cas-là, de la monogamie.
Finalement, Sapiens, il est plutôt monogame. On est programmé plutôt pour être monogame à l'origine, même si ça s'inscrit dans une stratégie de survie et que c'est pas forcément enrobé de quelque chose de romantique.
Sur la monogamie naturelle, ce qu'on peut remarquer, c'est que effectivement, s'il y a amour, ça crée un attachement qui peut être extrêmement durable et qui se nourrit que, à ma connaissance, que dans la monogamie, même si on parle beaucoup depuis quelque temps du polyamour, etc. Sans vouloir parler de mon expérience personnelle, mais dans ma génération des 68ards et baby-boomers, on a eu une période dans les années 70 où on vivait en communauté. Donc effectivement, on était en théorie dans le polyamour, mais on voyait bien que pour que le groupe tienne en tant que collectivité, on ne pouvait pas avoir de relations trop passionnelles et trop privilégiées de elle, parce que sinon, le groupe risquait d'éclater, de perdre de son sens.
On dit que lorsqu'on rencontre l'amour de sa vie, le temps s'arrête. Eh bien, c'est vrai.
J'aime son sourire, j'aime ses cheveux, et j'aime me sentir bien avec elle. C'est comme si tout était possible.
J'ai bien réfléchi, tu sais. Et il se trouve que je t'aime.
Quoi ?
Je t'aime.
Et qu'est-ce que je peux bien répondre à ça ?
Dis-moi que tu m'aimes, toi aussi.
C'est quoi pour toi, Tancrède, l'amour ? Est-ce qu'on s'aime ? Ça, c'est un truc que j'arrive pas à vraiment cerner dans notre relation depuis des années. C'est on s'aime ou on s'aime pas, en fait ?
Mais on s'aime, Ovidi. Enfin, moi, je t'aime.
Mais on s'aime pas d'un amour amoureux, puis on n'est pas en couple. Donc, qu'est-ce qui nous distingue, nous, par exemple, d'un couple amoureux ?
Déjà, on fait pas l'amour.
Mais il y a plein de gens qui font pas l'amour et qui sont en couple et qui s'aiment et qui sont mariés. Mais ils s'aiment quand même.
Ils s'aiment, oui. L'amour peut-être l'a changé. Parce qu'on dit que l'amour dure 3 ans. Peut-être c'est l'amour d'après les 3 ans qui fait que on fait chambre à part et qu'on se désire plus. Peut-être pendant les 3 premières années, on a un amour complet avec le désir, non ?
Mais t'y crois, toi, cette histoire de l'amour dure 3 ans ? Parce qu'en fait, ceux qui disent que l'amour dure 3 ans, c'est souvent parce qu'on nous dit qu'il y a une raison évolutionniste à ça. Mais t'y crois, toi, à l'amour qui dure 3 ans ?
Ouais, j'avais vu ça, cette idée que peut-être la durée de l'amour qui était de 3 ans était liée à l'éducation de l'enfant. On s'aime, le temps de procréer et puis d'élever pendant les 2 premières années l'enfant. Puis après, il n'y a plus besoin de s'aimer ou d'être en tout cas dans un désir unique. Ouais, faut voir.
Il y a une neurobio qui défend cette idée-là, c'est Lucie Vincent. Je pense que ce serait intéressant d'aller lui poser la question.
D'un point de vue neurobiologique, donc l'amour est un comportement spécifique qui a été mis en place par l'évolution pour assurer la survie de l'espèce.
Lucie Vincent, neurobiologiste, autrice de « Comment devient-on amoureux ?»
Donc c'est un comportement social très particulier, pendant lequel les deux partenaires sexuels voient des modifications importantes dans leur cerveau. dans leur façon de se comporter, dans leur attitude l'un envers l'autre et dans leur attitude ensemble contre le monde extérieur. On dit par exemple que l'amour est aveugle parce que on ne trouve pas de défaut chez son partenaire. Et ça, c'est un phénomène neurobiologique. On devient addict de son partenaire. On a une réelle souffrance quand il ou elle est absent. Et ça aussi, c'est un phénomène lié au processus qui ont été mis en place par l'évolution pour assurer vraiment de manière très ferme que les deux partenaires sexuels restent ensemble le temps nécessaire pour la reproduction et un début d'autonomie du petit être humain.
Qui serait donc de 3 ans, vraiment? Est-ce que c'est vrai quand on dit que l'amour dure 3 ans?
Les chercheurs disent que l'amour passionnel entre deux partenaires sexuels dure entre 18 et 36 mois.
Donc l'amour, ça s'inscrit tout simplement dans une stratégie reproductive. C'est un peu triste finalement.
Vous dites tout simplement et vous dites que c'est triste. Moi je trouve que c'est pas du tout simple. C'est un comportement très complexe avec des effets bouleversants. Et de savoir que ça fait partie d'une stratégie de vie, pour moi, ça le rehausse, ça devient quelque chose d'encore plus glorieux, merveilleux et étonnant et qui mérite toute notre attention.
Comment est-ce qu'on explique alors, par exemple, l'homosexualité?
On l'explique sans aucun problème, comme on explique pourquoi les femmes qui prennent la pilule tombent amoureuses aussi. Ces comportements, ces stratégies de reproduction ont été mis en place dans le cerveau. Ce sont des stratégies comme la stratégie de chercher à manger quand on a faim et à boire quand on a soif. Ce sont des stratégies comportementales innées.
Et qu'est-ce qui se passe alors au bout de 18 à 36 mois? Est-ce qu'il y a une chute hormonale de part et d'autre?
On ne peut pas dire définitivement ce qui se passe. On peut tirer des conclusions de ce qu'on a fait comme recherche, mais c'est difficile de faire des recherches sur un cerveau humain en particulier. Mais on pense qu'une partie du cerveau qui est particulièrement impliquée dans le comportement amoureux est le centre de récompense. C'est la partie du cerveau qui s'allume quand on mange du sucre, quand on boit de l'alcool, quand on prend de la drogue et quand on devient addict. Et les processus qu'on a pu démontrer indiquent que c'est les mêmes phénomènes d'addiction pour un partenaire que pour une substance de drogue. On sait que on devient de plus en plus tolérant aux drogues. Ça, c'est quelque chose de très connu. Il faut prendre des doses de plus en plus importantes pour avoir un effet euphorisant aussi important que à la première prise. Chez le partenaire amoureux aussi, il y a l'installation d'une tolérance qui doit, je pense, être programmée. Ça doit être le phénomène qui détermine la durée de l'amour, de cet amour fou que nous connaissons quand on est passionnément amoureux. Cette installation de la tolérance, c'est quelque chose qui se passe dans les neurones où les récepteurs sont de moins en moins liés avec tous les processus intracellulaires permettant d'avoir leurs effets. Alors si les récepteurs sont de moins en moins liés aux processus intracellulaires, petit à petit, la substance ou le partenaire va perdre de son effet. Et je pense que c'est pour ça que, au bout de quelques temps, le cerveau reprend son état de base, disons, où il ne voit plus son partenaire comme étant quelque chose de merveilleux et parfait, mais on commence à le voir comme n'importe qui d'autre.
Alors, comment est-ce qu'on fait durer ça?
Ouais, bonne question. On pense que l'acte sexuel est important pour rallumer les circuits d'attachement dans le cerveau. En termes de recherche, on parle d'attachement. Et donc, le type d'amour qu'on a entre deux partenaires sexuels, on pense que l'acte sexuel joue un rôle important pour l'entretenir.
Est-ce que malgré tout, si on veut que le couple dure, on n'a pas intérêt, dans un premier temps, à se choisir sur des critères très objectifs, finalement?
Bien sûr. Bien sûr, je pense que le pire ennemi du mariage, c'est l'amour. C'est l'amour passionnel. Parce que on tombe amoureux sur des critères très biologiques. Par exemple, on peut choisir un partenaire qui n'est pas du tout fait pour nous, mais qui allume notre envie d'excitation, qui répond à un fantasme sexuel, qui répond à un fantasme de vie. Et ça peut enclencher le processus, mais il n'y a aucune garantie que cette personne-là aime les mêmes choses que nous.
Donc il vaut mieux se choisir finalement, checker nos compatibilités sociologiques, avoir des centres d'intérêt communs, plutôt que se laisser emporter par la chimie hormonale. Quoi.
Je défie quiconque de tourner le dos à une histoire d'amour. C'est extrêmement captivant. Et on aura du mal à expliquer aux gens, mais non, ignorez ça, concentrez-vous plutôt sur ce questionnaire. Et donc, plutôt que de dire qu'il faut ignorer l'amour, je dirais, attendez avant de vous marier. Attendez 3 ans. Et puis, voyez où vous en êtes. Voyez si vous avez quand même cette base de compatibilité essentielle.
Qu'elle était belle, ma maman Paline, vue sur une prairie solitaire. Ma belle étante, sculpture androgyne, tu n'insistas pas pour me plaire. Je ne suis pas de celles qui bondissent sur le premier bijou souriant. Du temps il me faut pour que j'agisse, cœur de mousse modère ses battements.
Alors moi ça tue le peu d'idéalisme qui me restait, puisque l'idée que l'amour serait pas éternel quand même... Ça remet en cause presque tout un univers mental et culturel autour duquel on s'est créé.
Mais tu sais que le discours de Lucie Vincent, il fait pas l'unanimité hein, au sein de la communauté des neurobio. Parce que justement, il y a un côté fataliste, puis il y a aussi ce côté évolutionniste. Il peut avoir des petites tentations idéologiques qui tendraient à justifier les inégalités déjà entre hommes et femmes, mais même entre humains tout court. Et... ils sont pas forcément tous d'accord. Par exemple, quelqu'un comme Catherine Vidal, qui elle travaille sur le cerveau, elle est absolument pas d'accord avec ça et elle part du principe que toute cette histoire de neurochimie ne peut en aucun cas justifier toutes ces théories sur l'amour.
Mademoiselle Scott, je me demandais si Monsieur Tucker comprenait qu'il avait été un connard de première et qu'il s'agenouillait pour vous supplier de changer d'avis. Est-ce que vous pensez que vous changeriez d'avis?
Oui, je pense que oui.
C'est une excellente nouvelle.
Anna, combien de temps comptez-vous rester en Grande-Bretagne?
Toute la vie.
Alors, il est légitime de se poser la question... qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est amoureux?
Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche honoraire à l'Institut Pasteur.
Alors, pour répondre à cette question, il faut essayer d'avoir des indices déjà dans la recherche. Recherche chez des animaux et puis aussi des recherches qui peuvent être faites chez les humains. Et dans toutes ces questions, très souvent, on a tendance à parler d'abord du rôle des hormones, des effets des hormones sur le cerveau. Et ces thématiques sont en fait très prisées par les médias, les magazines féminins, les réseaux sociaux, où on vous dit « Ah, il existe une hormone qui s'appelle l'ocytocine, c'est l'hormone du coup de foudre, c'est l'hormone de la fidélité conjugale, c'est l'hormone du lien entre les femmes et les hommes ». Bon, elle est très célèbre, cette ocytocine. Il y a une autre hormone aussi incontournable, la testostérone, qui est l'hormone de la libido, de l'attraction sexuelle, qui, avec l'ocytocine, hein, c'est un couple indissociable qui expliquerait tous les mécanismes cérébraux liés aux sentiments amoureux. Alors, quand on regarde justement toute la réalité des recherches scientifiques faites sur ces questions-là, disons qu'on peut douter sérieusement d'un rôle majeur de ces hormones dans l'amour. Et certains prétendent que si, quand on se sépare, soi-disant, on fabriquerait de l'ocytocine après une rencontre pendant 3 ans, et après, on n'en fabriquerait plus, et c'est pour ça que les couples se sépareraient. Bon, tout ça reste totalement spéculatif, on peut le dire. Alors, bon, certains chercheurs ont trouvé une astuce. Ils se sont dit, eh bien, on va faire des sprays d'ocytocine. On va sniffer l'ocytocine en imaginant que le fait qu'on ait de l'ocytocine dans le nez, ça pourrait traverser la muqueuse nasale et arriver plus vite ou peut-être plus facilement dans la circulation cérébrale. Bon, personne n'a jamais démontré qu'un sniff d'ocytocine pouvait ensuite réellement avoir des effets dans le cerveau. En tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances, on peut dire qu'il n'y a pas de données scientifiques suffisamment rigoureuses qui permettent de dire que l'ocytocine est, chez les humains, l'hormone du lien affectif et l'hormone du coup de foudre ou je ne sais trop quoi.
Est-ce qu'il reste quand même quelque chose de l'ordre du neurochimique ? Il nous reste quelque chose encore en nous à ce niveau-là ? Le moment où on tombe amoureux, la douleur du chagrin d'amour, est-ce que ça reste quand même une réalité ? Ou est-ce que vraiment on est juste dans une construction culturelle ?
Les caractéristiques du cerveau de l'Homo sapiens lui permettent d'avoir une liberté de choix dans ses comportements. Cette liberté de choix, elle s'explique parce que notre cortex cérébral s'est énormément développé. Il contrôle toutes les autres régions du cerveau qui, elles, sont impliquées dans des comportements instinctifs et qui sont très sensibles aux hormones. C'est ce qu'on observe chez les animaux. Mais les animaux, ils n'ont pas un cortex cérébral comme le nôtre. Donc, ils ne vont pas pouvoir résister aux dictats biologiques des hormones dans, par exemple, les comportements associés à la sexualité et à la reproduction. Nous, les êtres humains, nous avons une dissociation complète entre sexualité et reproduction. Bon, par exemple, le taux des hormones dans le sang ou dans le cerveau n'a strictement rien à voir avec le moment des rencontres ni avec le choix des partenaires. On sait bien que les personnes homosexuelles, par exemple, n'ont absolument aucun problème hormonaux. Donc, la réalité de ce qu'on appelle l'attraction sexuelle, qui est un comportement instinctif, est complètement contrôlée par l'empreinte culturelle, l'empreinte sociale qui va faire que notre psychologie, notre vie intime, tout cela va contribuer à complètement influencer la réalité des relations amoureuses et des relations sexuelles. Donc, quand on parle d'instinct, ces instincts existent dans tout le règne animal. Et chez l'être humain, ces instincts sont contrôlés par le cortex cérébral et donc sont contrôlés par la culture. On prend l'exemple de la faim. Seul l'être humain est capable de dire « moi, pour des raisons politiques, je décide de faire la grève de la faim ». Et de la même façon, on peut dire que ce comportement très instinctif qui est aussi l'attraction sexuelle, au même titre que la faim, elle est complètement contrôlée par la culture. Les êtres humains peuvent dire, moi, dorénavant, je décide de ne plus avoir de relations sexuelles, les relations amoureuses, cela ne m'intéresse pas. Et en plus, cette liberté de choix, elle est fluctuante parce qu'elle peut varier tout au long de la vie, grâce à ce qu'on appelle cette fameuse plasticité cérébrale, qui fait que rien n'est jamais figé à tout jamais dans nos cerveaux, que nos cerveaux se réorganisent en permanence en fonction des expériences de vie, en fonction des apprentissages. Et auparavant, certaines théories laissaient croire que dès le stade fœtal, les hormones vont imprégner le cerveau, en particulier la testostérone imprégnerait le cerveau des fœtus mâles de façon indélébile, ce qui ferait que plus tard, les hommes aient des comportements avec plus d'appétence sexuelle, avec plus d'agressivité, et que tout ça viendrait d'un marquage indélébile du cerveau du fœtus, eh bien, toutes ces théories qui datent d'il y a plus de 50 ans n'ont jamais depuis été validées.
Caroline ! Caroline ! Vous êtes attendue quelque part ?
Non, il faut que je parte, c'est tout.
Je n'appelle pas ça partir, j'appelle ça courir. Ce que je ne comprends pas, c'est si vous courez vers quelque chose que vous voulez, ou pour échapper à quelque chose que vous avez peur de vouloir.
J'ai déjà fait tant de choses que je n'aurais pas dû faire. Je ne veux pas les rendre encore pires.
Mais non, je vous le promets.
Il y a une chose que vous ne savez pas. Oh, mon Dieu, comment vous dire ça? Écoutez, la première fois que vous m'avez vue, j'étais...
Vous étiez envoûtante.
Et, par exemple, les critères qui vont faire qu'on a le coup de foudre pour telle ou telle personne, le coup de foudre, il est complètement construit psychologiquement, socialement, cognitivement. Ce n'est pas une décharge d'hormones qui va faire que notre attention se porte sur telle ou telle personne. C'est le résultat de tout un contexte lié à l'individu, aussi bien à sa vie intime qu'à la façon dont il s'inscrit dans la société.
Donc le coup de foudre, c'est un mythe total, ça n'existe pas.
Alors le coup de foudre, il existe. C'est un vécu individuel qu'on ne risque pas de nier. Mais le coup de foudre est-il lié à la production d'hormones dans le cerveau ou dans le corps? Eh bien là, désolé, les recherches scientifiques ne permettent pas de faire de relation de cause à effet entre l'action de telle ou telle hormone et le fait d'être attiré de façon immédiate par une autre personne.
C'était « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Entre nous, c'était chimique. Avec Catherine Vidal, Lucie Vincent et Jean-Paul Demoule. Avec la voix d'Alexandre Duren. Un nouvel épisode de « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Les histoires d'amour finissent mal. En général, on ne cesse de nous chanter, comme s'il s'agissait d'une situation anodine, d'un micro-événement de notre existence dont on se remettrait d'un claquement de doigts. Allez hop, on attend le suivant, balai neuf, balai bien, comme disait ma grand-mère. Et pourtant, la rupture amoureuse nous plonge dans un état de désespoir dont on ne se remet parfois jamais. On a le cœur gros, le cœur brisé, le cœur en miettes. La douleur du chagrin d'amour est si violente qu'elle nous plonge dans une détresse émotionnelle. Elle est si vive qu'on se demande même si on y survivra. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Béressy. Épisode 6, le cœur gros. T'as déjà eu, toi, un gros chagrin d'amour ?
Tu es bien placé pour le savoir.
C'est moi ton plus gros chagrin d'amour ?
Non, mais tu m'as fait un très gros chagrin d'amour.
Tancrède Ramonet.
Moi, je suis spécialiste en chagrin d'amour.
T'en as vraiment vécu beaucoup, des chagrins d'amour ?
Non, j'en ai vécu 3 dans ma vie. Le premier d'entre eux, c'était un chagrin d'amour qui était au collège. Et j'étais très amoureux d'une jeune fille à l'époque. Et elle en aimait un autre. Et c'était, j'avais l'impression de vivre dans des pièces de théâtre ou dans des films. C'était horrible. J'écrivais des poèmes. Je commençais à lire justement les tragédies grecques. Et j'avais l'impression de vivre ça, alors que finalement, ça aurait beaucoup plus pu être du Phédo. Et c'est un sentiment, l'impression effectivement que on ne peut pas continuer à vivre sans l'autre. C'est terrible.
Moi, ça me rappelle, tu sais, les drames romantiques. J'ai passé mon bac français, je crois que ça devait être en 96, quelque chose comme ça. Et au programme, il y avait les drames romantiques, tu sais, genre Hernani, Ruy Blas. Et moi, je me suis demandé jusqu'à quel point ça façonnait pas ma vision de l'amour, c'est-à-dire le suicide comme option. Puisqu'à la fin des drames romantiques, ils suicident tous. Je sais pas si tu te rappelles, ils meurent tous à l'épée ou au poison, tu vois. Moi, d'ailleurs, je trouve ça super érotique, la façon dont ils se suicident sur scène. Mais du coup, je me demande jusqu'à quel point le drame romantique, comme ça, tu vois, dans ma petite tête d'adolescente de 16-17 ans, bah, ça n'a pas façonné mon imaginaire amoureux en me disant que, bah oui, le dénouement possible d'un chagrin d'amour, c'est finalement l'épée ou le poison ou le suicide, tu vois, tout simplement.
C'est ça, en plus, moi, tout me renvoyait à ça, quoi. Et il n'y avait comme seule option à l'époque que le suicide. C'était quelque chose de tragique. J'avais l'impression d'être un mélange entre, oui, Quasimodo, Cyrano de Bergerac, etc. Et ne voyant plus que la mort comme manière à la fois d'apaiser mes souffrances et puis de retrouver l'autre, finalement, avec l'idée aussi un peu que ouais, elle verrait bien ce qu'elle avait manqué à mon enterrement, puisque les gens diront à quel point j'étais formidable. J'avais 13-14 ans. Donc, je sais même pas si elle serait venue à mon enterrement. Voilà, je me disais ça comme manière de faire payer un petit peu et en même temps de lui révéler comme ça là, toute la grandeur, l'importance, l'immensité de mon amour, quoi.
Oh, madame, à genoux, par pitié, oubliez-moi.
Mais mon Dieu, pourquoi cela? Qu'avez-vous fait?
Je vais partir. Adieu.
Ah, pays damné, terre du dédain, sois maudite à jamais. Il prend la fiole d'opium. Ô mon âme, je t'avais vendue, je te rachète avec ceci. Il boit l'opium.
Sylvain Léda, professeur de littérature française à l'université de Rouen.
Ô mort, ange de délivrance, que ta paix est douce. J'avais bien raison de t'adorer, mais je n'avais pas la force de te conquérir. Je sais que tes pas seront lents et sûrs. Regarde-moi, ange sévère, leur ôter à tous la trace de mes pas sur la terre.
Alors pourquoi est-ce que les drames romantiques, ça se termine toujours en suicide ou en poison, en épée, en meurtre? Pourquoi ça se termine toujours comme ça? Qu'est-ce que ça a comme signification?
Alors, j'ai envie de vous répondre, c'est un lieu commun, pas seulement du drame romantique, mais du théâtre en général. Si vous prenez les tragédies de Racine, elles se terminent mal, sauf que on ne voit pas la mort en scène. La mort disparaît, elle est évacuée en coulisses, Cléopâtre dans Rodogune va mourir en coulisses, on ne la voit pas. La nouveauté du spectacle romantique, c'est que la mort fait spectacle, elle est attendue. Le public veut la voir en scène, il veut participer à cette espèce de moment de climax du spectacle en voyant les gens mourir, se tuer, se suicider, parfois de manière tout à fait frénétique, en râlant, en rampant sur le sol.
Est-ce que c'était condamné à l'époque? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des craintes qui aient un caractère incitatif, que les gens se suicident en masse après avoir vu des pièces de théâtre?
Oui, c'était condamné. Ce qu'on appelle l'école moderne à l'époque, c'est le romantisme. Et on condamne les excès de l'école moderne. Et ces excès sont principalement l'adultère, puisque c'est condamné moralement, mais aussi le suicide, l'assassinat, qui sont des actes répréhensibles. Mais j'ai envie de dire, cette mauvaise influence du théâtre autour de la question de la mort, on la trouve aussi à d'autres moments. Par exemple, quand Goethe publie Werther, il y a une vague de suicides en Europe, c'est ce qu'on appelle l'effet de Werther, et c'est moralement jugé très dangereux. En même temps, il y a toute une charge érotique derrière cette mise à mort en scène, devant le public, une sorte de grande exhibition d'un désir qui avait peut-être été très longtemps refoulé au théâtre, ou alors sur des scènes populaires, des scènes mineures. Sauf que là, c'est sur un grand théâtre parisien, fréquenté par un public très varié, très élitiste, plus populaire, mais aussi très élitiste.
Pour revenir au suicide, il y a aussi une condamnation de l'Église du suicide, encore, à ce moment-là. Enfin, c'est toujours le cas, par ailleurs, mais moins. Là, j'imagine que la condamnation était quand même plus forte.
Alors, la condamnation est très forte, en effet. Les êtres qui se suicident n'ont pas accès au ciel, on va dire. Donc, effectivement, il y a une condamnation du suicide. Et en même temps, c'est tout à fait paradoxal, il y a aussi une certaine complaisance dans le suicide à l'époque romantique. Donc il y a une espèce de double dynamique de condamnation morale et de complaisance dans cette action qu'on peut juger immorale si on est croyant, si on est chrétien, religieux, que sais-je. Mais en même temps, ce suicide dit quelque chose d'un état moral de la société et d'un désenchantement profond. Dans les nouvelles de Musset, que Musset écrit après 1836, il met en scène le suicide d'une jeune fille, d'une jeune grisette qui n'a pas suffisamment les moyens de vivre et qui n'a pas une réciprocité amoureuse avec un jeune homme, un dandy, qui n'est pas de son niveau social et elle se suicide à la fin de cette nouvelle. Elle est très 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 touchante cette nouvelle et elle dit quelque chose de la société du début de la monarchie de Juillet. Il y a un malaise autour du suicide, un malaise ontologique je dirais. C'est pourquoi la littérature, que ce soit le théâtre, mais aussi la poésie ou les romans, prennent en charge ce thème social, si vous voulez, pour produire un discours sur la mort. Et le suicide, lui, est une réponse. Et une réponse, j'ai envie de dire, qui garde un certain panache. Pour les dandys, par exemple, le suicide est une manière de quitter le monde dignement. Mais ce qui est moderne dans le suicide, c'est qu'il a quelque chose d'élégiaque et de féminin, je trouve. Donc là, il y a aussi une question de genre autour du suicide. Les hommes ne se suicident pas de la même manière que les femmes. Or, Ruy Blas, lui, se suicide comme se suiciderait une femme en s'empoisonnant, qui n'est pas un suicide jugé très viril, au fond. Et son suicide au poison s'accompagne de tout un discours élégiaque qui est absolument sublime, avec cet ultime « merci » qui est extraordinaire, qui est une sorte d'apothéose élégiaque dans la mort, dans le suicide, qui est un des très grands moments du théâtre romantique.
Jusqu'à quel point est-ce que ça façonne encore notre imaginaire amoureux, tout ça, aujourd'hui, en 2022 ?
Je dirais que quand on évoque le mot romantisme, amour romantique, l'expression est souvent galvaudée. On pense aux comédies américaines, on pense à un usage qui a été un peu dévoyé. Je crois qu'on garde quand même un héritage, j'ai envie de dire, européen, d'un certain traitement des passions, qui passe par l'époque romantique. Les passions, c'est transséculaire, mais le renouvellement qu'apporte la littérature romantique au traitement des passions, et notamment des passions amoureuses, reste quand même pour nous des modèles. Je donnerai deux exemples. L'exemple du Rouge et le Noir, de Stendhal. Quand on pense au romantisme, on pense à ce grand roman d'amour, grand roman de passion amoureuse, qui se termine mal, bien sûr. Et puis, on pense évidemment à tous les clichés de l'amour romantique qu'on a déjà évoqué ensemble, le désespoir, le suicide, les tourments, l'incompréhension. Donc, je pense que notre imaginaire culturel commun, notre imaginaire collectif, a totalement intégré ces éléments. Quand on se suicide par amour, quand on dit que quelqu'un se suicide par amour, on va le qualifier de romantique. Parce que l'association amour et mort, cette équation-là, aboutit au romantisme. Ou à une image qu'on a du romantisme.
Je te rappelle que moi, je porte un prénom, c'est Tancrède. c'est un prénom qui a une origine, qui vient quand même d'une histoire particulière, qui s'appelle Le combat de Tancrède et Clorinde. C'est le premier opéra qui a été fait par Monteverdi, c'est tiré du Tasse. C'est l'histoire d'un combat qui oppose Tancrède et Clorinde, la femme qu'il aime. Sauf que Clorinde est habillée en chevalier, elle a le visage masqué, elle veut rentrer, je crois que c'est dans les portes de Jérusalem, c'est une sarrasine, Tancrède est un croisé. Et elle veut rentrer et elle ne connaît pas le mot de passe. Et alors, un combat s'engage entre Tancrède et Clorinde. Tancrède tue le chevalier masqué, disons avec son casque. Et comme il s'est battu très noblement, il le prend dans ses bras au moment où il va expirer, retire son aume et il voit les cheveux et le visage de la femme qu'il aime. Et donc, il vient de tuer la femme qu'il aimait. Et là aussi, on a une espèce de mix entre l'amour et la violence qui sont imbriqués comme ça, à la fois la chevalerie.
C'est chaud, hein, le poids quand même sur nos épaules et comment ça façonne nos futures relations amoureuses. Parce que toi, Tancrède, donc t'es censé être le chevalier. Mais attends, je te rappelle que moi, mon vrai prénom, c'est Héloïse.
Absolument.
Au secours, Héloïse et Abélard, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que l'histoire d'amour, elle se finit avec l'autre qui est châtré. Mais à un moment, ils finissent quand même réunis dans la mort pour l'éternité. Ils finissent quand même réunis. Donc il y a toujours cette idée de projection à très long terme des relations amoureuses, qui finalement me convient assez bien. Mais ça se termine salement de mon côté. Ça se termine avec une paire de couilles coupées, quoi. Ton premier chagrin d'amour, t'as voulu mourir, et le second, t'étais dans quel état ?
Le second chagrin d'amour, c'est presque l'inverse, si tu veux. C'est que là, j'ai voulu vivre, au contraire, et vivre le plus longtemps possible, parce que nos chemins se séparaient, on avait fait nos études, on entrait dans le monde du travail, on commençait à avoir des amitiés qui étaient différentes, des envies, des aspirations qui étaient différentes, et la vie, en quelque sorte, nous a séparés. Et donc, pour cette raison, j'ai voulu, à ce moment-là, à l'inverse, continuer à vivre, parce que je me disais, un jour, on va se retrouver. Un jour, on va se retrouver et à ce moment-là, on pourra vivre pleinement cet amour et à ce moment-là, on pourra se retrouver tous les deux. À la fois cet espoir dont je savais qu'il avait quelque chose d'illusoire, mais en fait, m'a rongé pendant très longtemps. Ça a été un moment à la fois le but de ma vie et en même temps, je ne savais que je ne l'atteindrais jamais.
Est-ce que tu l'as revu après ? Et qu'est-ce que tu as ressenti ? Moi, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est ce que toi tu as ressenti, mais quand on retrouve un ex ou une ex qu'on n'a pas vu depuis des années, on se dit « merde, ça n'était que ça ». Je me suis mis dans cet état alors que ça n'était qu'elle ou que lui.
Alors, justement, d'ailleurs, c'était drôle, puisque d'abord, bizarrement, elle était devenue de droite. Et ce qui m'a surpris, c'était qu'en fait, ça ne nuisait en rien à l'amour que je lui portais. C'était toujours pareil. Mais j'en ai écrit une chanson, ça, qui s'appelle « Qui vivra verra », qui raconte à la fois le sentiment amoureux et puis cette espèce d'attente de retrouver un jour cette personne.
Si tu la vois, dis-lui que j'ai refait ma vie, que moi ça va, que je suis heureux aujourd'hui. Si tu la vois, dis-lui qu'il m'a fallu du temps, mais que je me suis reconstruit et que je vais de l'avant.
On parle de faire son deuil à propos de la rupture. Mais pourquoi faire le deuil d'une personne qui n'est pas encore morte, voire d'une personne qui parfois affirme revivre après la séparation ? Comment alors supporter que l'autre puisse revivre sans cette expérimentation à deux du réel ? Dis-lui que je
n'en parle plus. Est-ce qu'on peut avoir littéralement le cœur brisé ? Ça existe ou pas ?
Oui, on a découvert au Japon que le cœur pouvait être brisé, alors pas au sens physique du terme, mais néanmoins pas loin, parce qu'il peut effectivement, sous l'effet de la tristesse, du stress considérable que représente notamment une rupture ou la perte de l'être aimé, eh bien le cœur peut se modifier.
Damien Mascré, médecin sexologue.
Il peut perdre finalement une partie de sa fonctionnalité, comme si la personne qu'on avait perdue était partie avec un morceau du cœur. Cette fois-ci, réellement, puisque la paroi ne va plus réagir normalement, une partie du cœur sur le ventricule, ce qui fait que le cœur va devenir plus gros, mais malheureusement dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il va moins bien fonctionner. On a pu évaluer que cet impact pouvait se produire très rapidement. En quelques jours, le cœur peut perdre une partie de sa fonction. C'est ce que les Japonais appellent le takotsubo. C'était une façon qu'on avait pour capturer les poulpes, d'avoir des sortes d'amphores dans lesquelles le poulpe rentrait mais ne pouvait plus sortir parce que ça avait une forme dilatée. Et c'est ce qui se passe effectivement quand on regarde le cœur d'une personne qui souffre de takotsubo.
Est-ce qu'on peut aller voir son médecin quand on a un chagrin d'amour? Est-ce qu'il y a une prise en charge médicale du chagrin d'amour?
Les médecins vont regarder simplement un petit aspect, si on peut dire, mais qui est considérable, évidemment, puisque c'est celui qui peut amener certaines personnes à vouloir cesser de vivre. C'est l'aspect qu'on appelle la dépression. Même si c'est contesté par certains psys qui pensent que, après tout, pourquoi coller une étiquette de dépression sur des sentiments tout à fait naturels dans la situation qu'on vit, que sont la tristesse, le désespoir, la colère parfois, la culpabilité, la honte, tous ces sentiments qui peuvent provoquer un véritable orage intérieur dans l'esprit de la personne qui se sent abandonnée. Donc on va vraiment s'en occuper sous l'angle de la dépression et finalement donner un traitement qui n'est pas parfaitement adapté et qui est même loin de l'être, puisque si on s'occupe simplement de la chimie du cerveau, c'est-à-dire de la dépression, on va essayer d'atténuer les sentiments, d'atténuer la souffrance, ce qui est un point important, mais évidemment qui n'est pas suffisant pour prendre en charge la perte d'une personne aimée.
5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul.
Pendant que Boulogne... Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est en chagrin d'amour comme ça? Quelles sont les différentes étapes et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a une réalité neurobiologique?
Alors oui, dans le chagrin d'amour, il y a évidemment une chimie du cerveau qui est très perturbée, qui est en souffrance, parce que il y a une sensation de manque. C'est-à-dire que subitement, on prive le cerveau de son produit, de sa drogue. L'amour est une drogue pour le cerveau, clairement. On sait très bien que le circuit de récompense est très activé lorsque l'on est en présence ou lorsqu'on pense à la personne que l'on aime. Donc, subitement, quand tout s'arrête, eh bien, il y a une sensation de manque au sens chimique du terme, comme la personne qui a des difficultés avec l'alcool, qui n'aurait plus d'alcool, la personne qui aurait besoin de fumer et qui n'a pas de cigarette, ou la personne qui prend des drogues plus dures, évidemment, et qui ne les a pas, il y a vraiment cette sensation chimique de manque qui fait que des circuits de la douleur peuvent même s'activer. Donc il n'y a pas seulement l'absence de récompense et de plaisir, il y a aussi des circuits douloureux qui s'activent. Donc le chagrin d'amour fait mal au sens presque physique du terme. Là, cette fois-ci, le corps est lui aussi impliqué, même s'il n'y a jamais de séparation stricte, évidemment, entre l'esprit et le corps. On a chimiquement un violent sevrage qui se produit dans le cerveau.
Est-ce qu'il y a une durée du chagrin d'amour?
Alors, c'est vrai que je me souviens d'avoir répondu une fois à une amie qui me demandait quelle était la meilleure solution parce qu'elle était effectivement frappée d'un chagrin d'amour. Et je lui ai dit, il n'y en a qu'une, c'est le temps. Parce que évidemment que le temps efface les traces sans supprimer les blessures profondes. Donc le temps va faire son office. Il y en a pour qui ça peut être plus difficile. Il y en a pour qui ça peut être très long. Et on sait aussi que pour certains, la blessure ne se referme jamais. Et on reste jusqu'à ses derniers jours avec la présence, si on peut dire, de l'autre, puisque l'autre est absent.
Il y a 2 ans et demi, j'ai vécu une rupture amoureuse qui a été assez traumatisante pour moi. Et là, j'ai un peu pris de plein fouet une douleur que j'avais jamais vraiment ressentie.
Anaïs Schenke, autrice de Fragments, rassembler les cœurs brisés.
Et j'ai pas eu trop d'autre choix que de l'écrire pour un peu mettre des mots sur ce que je ressentais. Parce que j'ai été tellement sonnée par cette dissonance entre... Je t'aimais il y a quelques jours et aujourd'hui je ne t'aime plus du tout au point que j'ai plus envie de te parler, de t'accorder du temps et de l'espace dans ma vie, que j'avais besoin d'essayer de comprendre. Ce que j'ai peut-être pas précisé, c'est que cette rupture, elle est vraiment arrivée de nulle part. Je suis tombée très amoureuse de quelqu'un qui était très amoureux de moi aussi, et j'ai vécu quelque chose d'un peu passionnel. Et en fait, il y a eu tout à coup, de la part de la personne avec qui je partageais cette histoire, un revirement de situation que j'ai jamais compris, ou jamais pu savoir pourquoi, parce que lui-même n'a jamais mis le mot dessus. Où le soir de mon anniversaire, le soir de mes 30 ans, en fait, il s'est rendu compte que non, il était même pas plus amoureux de moi, il n'était pas amoureux de moi et qu'il ne m'avait jamais aimé. Et cette espèce de constat que tout à coup, quelqu'un en qui j'avais hyper confiance et qui avait une place hyper importante dans ma vie pouvait disparaître, ça m'a fait vraiment très peur pour tout le reste des pans de ma vie. Et du coup, je me suis dit, tiens, en fait, moi, ce que j'ai vécu de manière hyper personnelle, qui est de me faire larguer le lendemain de mes 30 ans par quelqu'un que j'aimais beaucoup, bah, c'est peut-être pas que mon histoire, et il y a peut-être quelque chose d'un peu plus systémique dans cette manière de voir l'amour, dans cette manière de voir le couple, la relation, et surtout de voir la rupture.
En quoi une histoire finalement banale, elle peut revêtir une dimension politique ? En quoi c'est systémique, ce que tu as vécu ?
On nous laisse penser que tout ce qui est de l'ordre intime, c'est quelque chose de vraiment très personnel et dont il faut pas trop parler. Il y a un peu des questions d'ego, il y a une question de faire bonne figure, il y a une question de pas laver son linge sale en public. Et plus on parle de ce qu'on a vécu, plus ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul à l'avoir vécu, plus on peut se rendre compte qu'il y a des dysfonctionnements, qu'il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Et plus ça lève aussi un peu le voile sur une espèce d'impunité que peuvent avoir certaines personnes dans des espaces qui sont intimes, donc clos, donc à l'abri des regards, donc au sein desquels peuvent s'exercer une violence hyper forte. Ça m'a brisé très fort, ça a été un effondrement total dans ma vie. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts en fait pour en revenir, ça m'a demandé de mobiliser des moyens émotionnels importants, des moyens financiers aussi. Ça nécessitait que j'aille en thérapie parce que j'arrivais pas à surmonter ce chagrin tout seul. Donc en fait, c'est politique, ça a une incidence. Moi, je peux pas m'empêcher de penser que je crois qu'il y a quand même vraiment une socialisation hyper différente entre les petites filles et les petits garçons, puis les ados, puis les adultes, sur ce que c'est que l'amour, ce que c'est que le couple, ce que ça représente, et la considération de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit peu cette idée que l'amour est un... Enfin, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de responsabilité. Et s'il n'y a pas de responsabilité, bon bah voilà, je t'aime plus, c'est tout. Et c'est pour ça aussi, je crois que c'est souvent ce qui est utilisé pour quitter l'autre. Je ne t'aime plus. Et je pense que, de par encore une fois la socialisation et le soin qu'on peut apporter à l'autre, aux émotions de l'autre, les personnes socialisées comme femmes vont avoir plus tendance à essayer de mettre des mots, à essayer de comprendre, à essayer d'envelopper quelque chose pour que ça se termine mieux. Et tandis que les hommes, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas très important, en tout cas, on n'a jamais eu d'exigence émotionnelle envers eux. Enfin, en fait, je pense que mon ex, je pense que déjà, ça lui a même pas traversé l'esprit que ça m'avait fait autant de mal.
Est-ce que tu lui as fait lire ta BD ? Est-ce que vous en avez reparlé depuis ?
Pour lui, ça a été quand même assez violent. Moi, j'avais l'impression que c'était un petit peu une réparation juste. Enfin, j'avais besoin aussi de le mettre un petit peu face à... Enfin, c'était un petit peu le seul outil que j'avais pour répondre à toute la violence, parce qu'il n'a pas été très sympa, hein, même par la suite, dans nos échanges, voilà. En fait, j'avais pas d'autre choix que d'en faire un livre, parce qu'il m'a complètement nié un espace de parole, et que moi, j'aime pas qu'on m'empêche de parler et d'exprimer ce que je ressens. Et je pense que voilà, c'est pas pour rien qu'on a beaucoup d'albums de super pop stars qui parlent de leur rupture, de spectacles. Enfin, en fait, si on a l'opportunité de pouvoir dire quelque chose qu'on nous a empêché de dire, on le fait.
Vous êtes parti à la rencontre de gens partout en France pour leur demander ce qu'est l'amour. Est-ce que vous êtes parti en quête d'amour vous-même ?
Alors oui, absolument. En fait, je ne devais même pas faire de livre à la base. En fait, j'étais tellement triste parce que j'étais journaliste, je bossais pour le New York Times, j'étais une de leurs correspondantes pendant presque, à ce moment-là, c'était presque 5 ou 6 ans.
Stéphania Roussel, journaliste, autrice de Amour.
Et en fait, je faisais des trucs super tristes, super difficiles, que ça soit sur le trafic humain, le chômage, la politique, et c'était toujours... quand on bosse dans la news, c'est non-stop, on a à peine le temps de digérer la peine de quelqu'un, qu'on est déjà devant une autre personne. Et en fait, J'arrêtais pas d'enchaîner les sujets, j'arrêtais pas de rencontrer les gens, et les gens, à chaque fois, on s'attache aux gens, on les aime. Et moi, j'avais vraiment du mal à me remettre à chaque fois de chaque personne, de l'histoire, de la peine de chaque personne. Donc, c'était vraiment compliqué de digérer tout ça, et j'allais de plus en plus mal. Et je me suis dit, mais en fait, l'amour, ça n'existe pas, c'est pas possible. Enfin, ça s'était terminé avec mon copain, donc je me disais, mais où est l'amour, en fait? Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, Stéphania, tu vas prendre ta voiture et tu vas aller voir si l'amour existe. Et donc, je suis partie complètement à l'arrache, en me disant, bah, allez, vas-y, va demander aux gens ce que c'est que l'amour pour eux.
Est-ce que faire ce livre, ça a soigné votre chagrin d'amour, en fin de compte?
Ah bah, évidemment. De rencontrer ces personnes, ça m'a sauvé la vie, en fait. Parce que j'étais vraiment pas bien. Et les gens que j'ai rencontrés étaient tellement ouverts, gentils. Et on parlait, en fait. On parlait vraiment du sens de la vie. C'est quoi l'amour? Mais c'est quoi le sens de la vie? Et comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Et eux me disaient comment ils allaient. Moi, je leur disais comment on allait. Et donc, on partageait un moment, mais tellement intime et tellement beau et tellement intense que c'était cette connexion, en fait. Et c'est, pour moi, cette connexion, c'était de l'amour. Ça a complètement soigné mon chagrin d'amour de faire ça. En fait, on a tellement partagé avec ces différentes personnes. Et justement, c'est cette connexion et de pouvoir vraiment parler de choses profondes qui ont fait que, bah, eux comme moi, on se sentait bien, quoi. Parce qu'on avait créé une connexion. Et je pense que l'être humain a besoin de cette connexion. Sinon, on crève.
Donc là, ce road trip, ça vous a permis de recréer du lien?
Ouais.
Donc peut-être de retrouver foi en l'humanité.
Exact.
Est-ce que ça vous a donné foi en l'amour?
Ah oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, non, mais j'ai foi en l'amour parce que justement, tous ces petits moments, c'était comme des petits trésors, quoi. Et c'est des moments de grâce. Et donc oui, la douceur, elle est là, et la tendresse, surtout, quoi. Et je pense toujours à cette nana que j'ai rencontrée qui s'appelle Françoise. Et j'avais dormi chez elle, on avait beaucoup parlé. Et en partant de chez elle... Je baisse la vitre et je lui dis salut. Et elle me regarde, elle me dit vive la résistance. Et en fait, c'est ce que je me suis dit, elle avait raison. C'est que tous ces gens que j'avais rencontrés, c'était comme une espèce de résistance, quoi. Parce que tous les gens, en fait, ils se relevaient à chaque fois. À chaque déception, à chaque tristesse, bah, au final, ils se relevaient et ils donnaient encore énormément d'amour. Comme ils m'en ont donné et comme ils aimeraient en recevoir. Donc oui, l'amour est là, l'amour existe. Et je dis vraiment la tendresse, la douceur et le partage fait que c'est, bon, pour moi, c'est peut-être ça l'amour.
Je ne me retourne pas, ça n'est plus mon problème. Non, je ne me retourne pas, ça n'est plus mon problème.
C'était Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Le cœur gros. Avec Anaïs Schenke, Stéphania Roussel, Sylvain Léda et Damien Mascret. Documentation Radio France, Antoine Vuillos, prise de son, Thibaut Nassim Ben, Mathieu Tourin, Lucien Lefebvre, Guillaume Ledu, Alexandre Bucquois et Claire Levasseur. Mixage, Manuel Couturier. Attaché de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Béressi.
Il était une fois une princesse qui devint amoureuse.
France Culture invite la féministe, réalisatrice et autrice Ovidie à déconstruire les codes amoureux. Pour LSD, la série documentaire, épaulée par son acolyte Tancrède Ramonet, elle tente de définir les multiples représentations romantiques qui envahissent notre époque.
Je me suis rendu compte que les hommes qui me plaisaient, ils étaient tous issus de la classe bourgeoise. Et je me suis dit, merde!
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Un podcast d'Ovidie, réalisé par Julie Béressi, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.